sur le pont des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Peinture, photographie, cinéma, sculpture, musique. Dans l'actualité des arts, l'agenda de l'Académie des Beaux-Arts. Sur le pont des arts du mois de décembre 2012 est principalement consacré à l'architecture. Aujourd'hui, l'académicien Claude Parent présente en toute transparence les choix du jury du Grand Prix d'architecture qu'il préside à l'Académie des Beaux-Arts, un temps fort de l'Académie qui la relie aux jeunes architectes. Nous parlerons également de l'exposition que présente le musée d'Orsay, consacrée à l'architecte Victor Baltard, mort en 1874. Académicien en son temps, il est intervenu sans relâche sur la capitale parisienne, soucieux d'y faire entrer le progrès. Pour l'instant, place aux jeunes et aux toujours jeunes, retrouvons sans tarder Claude Parent, expliquer le choix du sujet mis au concours cette année, intitulé « Maison gardée » et nous raconter les débats qui ont animé le jury pour la sélection des finalistes. Claude Parent, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous sommes ensemble pour parler du Grand Prix d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts pour l'année 2012, consacré au thème de la maison, un sujet à la fois classique et inhabituel. Les architectes préférant en ce moment, pensez-vous, réfléchir davantage sur l'habitat collectif plutôt que sur la maison. C'était le thème du concours que vous avez proposé aux candidats avec les autres membres du jury, à savoir tous les membres de la section d'architecture de l'Académie. Vous avez reçu 104 dossiers, très exactement, pour la première épreuve. Rappelons simplement qu'il suffit d'avoir moins de 35 ans pour concourir, d'être architecte ou étudiant en architecture. Cette année, 80 architectes et 24 étudiants ont répondu. Alors, on a envie de vous demander, Claude Parent, pour commencer, vous avez construit plusieurs maisons dans votre œuvre architecturale. Que représente une maison ?
Je viens d'être interrogé là-dessus par une revue et ça relayait la petite discussion qu'on a eue à la section quand j'ai proposé la maison et que, comme vous venez de le dire, il trouvait presque que c'était ringard, que ça ne correspondait pas à la modernité, que la modernité, c'était plus que de parler de l'immeuble, c'était de parler de la ville. Et moi, j'ai dit que la ville, on ne demande pas ça à un gamin de 20 ans, qui a fait 2 ans d'école, ou même à un jeune diplômé. Ce sont des problèmes d'une telle envergure que je ne vois pas bien ce que, en un prix, en un rendu, il pouvait donner quelque chose d'une réflexion qui mérite d'être relatée. Mais on y arrivera petit à petit. Parce que, en fait, ce qui est intéressant dans ce Grand Prix, pour moi, quand j'en ai pris la présidence après la mort de Folliasson, qui menait ça très bien de main de maître, avec lequel j'ai collaboré. Au début, je voulais pas prendre la présidence tout seul, je voulais qu'on la fasse à deux. Quand il est mort, malheureusement, j'ai bien été obligé de me débrouiller. Et je n'avais qu'un truc en vue, c'est que ça ressemble pas au Prix de Rome. C'était, au fond, un contre-programme. J'y suis arrivé. Je suis arrivé, et nous sommes tous arrivés, par la façon dont nous avons rendu les récompenses, distribué les récompenses, avec des raisons, nous sommes arrivés à avoir beaucoup plus de monde qu'avant. On a dû tripler ou quadrupler le nombre d'étudiants qui s'intéressaient à nous. Au début, ils voulaient pas. Ils pensaient qu'on était des vieilles personnes, que c'était pas intéressant dans les écoles. On leur disait que c'était pas intéressant de faire notre Grand Prix. Bon. Alors, il arrive une double chose. C'est que il y a déjà une émulation au sein du jury. On discute pourquoi on fait cette année. Et parce que cette discussion est enrichissante. Alors qu'avant, on prenait un programme bateau, le palais de je sais pas quoi, etc., etc., et qu'on faisait un Prix de Rome caché. Alors que maintenant, c'est plus un Prix de Rome. Ce sont des programmes du quotidien.
Oui, parce voilà que le prix existe depuis 1975.
Ben voilà. Oui.
Alors, il a énormément évolué et le public qui participe aussi, de plus en plus jeune également, très ouvert aussi. Il y a des candidats étrangers qui viennent concourir, des étudiants aussi de d'autres pays. Donc, on a une très belle ouverture du prix sur le public à la fois étudiant et jeune architecte.
On n'avait pas de presse au début, pas du tout. Et puis, ce double débat, le débat entre les membres de la section pour savoir quelle est la nécessité du prix. Et cette année, j'ai une idée que je partage avec un ou deux déjà à qui j'en ai murmuré le truc. Ça va être une grosse surprise.
Bon, alors ça, c'est pour l'année prochaine.
Pour l'année d'après. Mais cette année déjà, ça avait fait débat et on a voté comme ça à l'amiable. Et on a écrit, moi j'ai écrit des lettres en disant, je vous demande de confirmer ou d'infirmer. Finalement, la majorité a décidé de faire la maison. Et ce que nous avons trouvé d'extraordinaire, c'est que, au fond, dans l'arrière-tête de chacun de ces jeunes, il y a la maison. J'écoutais une émission l'autre jour à la télévision, on interrogeait un type, 22 ans, 23 ans, qui avait fait un haut fait, je ne sais pas quoi, un petit héros comme il y en a tant dans la vie courante, et on lui disait, mais quel est votre avenir là maintenant? Vous avez gagné ceci, ou un sportif, je ne sais pas. Mais jeune, hein, jeune, tout jeune, qui commençait à montrer ses capacités. Et on lui disait, mais quel est votre avenir? Il répondait, mon avenir, c'est trouver une femme et me marier. Avoir un enfant et une maison. Il n'y a rien rajouté de plus. Donc, on était tout à fait dans le système. Dans le système qui les préoccupe. Et j'ai interrogé beaucoup de jeunes gens, de jeunes architectes, de jeunes étudiants, et ils me disaient, nous, il nous tarde de faire notre première maison. Et moi, vous m'interrogez, mais pendant les 10 premières années de mon exercice du travail, d'architecte, je n'ai fait que des maisons individuelles. Et une par une, pas groupées et tout ça. Et maintenant, je vais chez mes clients, ils sont pas morts, il y en a certains qui vivent encore là, et nous avons une discussion sur comment ça s'est passé et comment maintenant ils la voient qu'ils ont 80 ans. Il y en a qui me téléphonent pour me raconter comment se fait la courbe du soleil dans une journée. Il est un peu handicapé.
Oui.
Il dit la courbe du soleil dans une journée, il me l'a décrit par téléphone depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.
Et ça, c'est pour quelle maison,
la maison de Ruche, notamment.
La maison de Ruche, oui.
La maison,
à Versailles.
La première maison aussi que j'avais faite avec Einstein.
Ah,
ma
oui.
Première maison. Et puis, une maison que j'ai faite avec un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Perdrizet, qui est mort également, mais qui a fait la maison avec moi. C'est-à-dire qu'il était petit ingénieur dans je ne sais quelle industrie, il s'est intéressé à l'architecture, nous avons fait la maison ensemble, nous l'avons co-signée à ma demande, alors qu'il n'était pas architecte du tout, que parce qu'il y a travaillé. J'ai reçu sa fille hier, qui fait un livre sur son père, et elle m'a interrogé là-dessus. Et elle m'a raconté tout ce qu'il avait raconté sur la maison, et c'est exactement ce qui s'était passé. C'est incroyable qu'une maison... Vous savez, j'ai pris le dictionnaire. La maison, ça vient du nom mensuo, je ne sais pas quoi, mais ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire demeurer, en latin. Demerer, ou quelque chose comme ça. Demeurer. Donc, son truc, le but final de la maison, c'est quelque chose dans lequel... Comme le jeune me répondait, on fait les enfants, on élève les enfants, et puis après, on fait sa vieillesse, c'est-à-dire on demeure.
On s'ancre dans la vie.
Oui, extraordinaire. Alors maintenant, à cause du nomadisme du travail, à cause de beaucoup de choses, et surtout à cause d'une faute impardonnable des maires et des petites communes qui ont établi ce qu'on appelle des plans d'occupation du sol, l'interdiction, quand vous avez une maison de tant de mètres carrés sur une parcelle de tant de mètres carrés, de faire une...
De faire ou pas une extension.
Une extension.
Ou une modification.
Mais c'est criminel. C'est criminel parce que il y avait un grand sociologue que j'écoutais l'autre jour à la télévision ou à la radio. Et la même chose, il disait, c'est ça qui fait que les maisons sont si chères. C'est que quand vous achetez une maison, elle est petite. Quand vous avez un enfant, ça va. Quand vous en avez deux, ça va plus, vous êtes obligé de déménager. Donc ça crée un marché artificiel de passer d'une maison 3 pièces ou 2 pièces à une maison 4 pièces et de vous forcer à changer de territoire, à vous faire de nouveaux amis, etc., etc. Et chaque fois, ça vous coûte plus cher. Donc, artificiellement, le marché, c'est complètement idiot de condamner la maison. Encore faut-il pas faire des maisons de promoteurs, toutes pareilles dans le territoire national, depuis la Bretagne jusqu'à Sens, comme je l'ai vu l'autre jour, le même procédé, le même processus. Ça, c'est ridicule.
Oui. Alors, là, c'était intéressant de voir aussi que dans votre œuvre architecturale, la maison, ça a été un moyen d'expérimenter beaucoup de choses pour vous.
Ben oui.
Et vous avez un regard aussi sur l'apport que ça a donné dans votre propre démarche, j'imagine. C'était un cadeau offert aux candidats cette année cette réflexion première sur cet espace. Quel type d'espace particulier mobilise la maison dans l'esprit de l'architecte? Est-ce qu'il y a comment est-ce qu'il réfléchit par rapport à l'espace d'une maison? Est-ce que c'est par les différentes fonctions, usages? Vous avez pris ça comment, par exemple? Parce que vous avez été en rupture, même dans les maisons que vous avez faites, complètement avec l'air du temps. Je pense à la maison de Ruche, justement, avec ce cube renversé qui est aujourd'hui connu, mais c'était, entre guillemets, révolutionnaire de penser cette boîte de verre habituelle qu'on trouve sur les maisons d'architectes, même si elle a été initiée par Miss van der Rohe. Il y avait avec vous une volonté, là, déjà, de changer un peu les choses et le rapport à l'espace. Alors, l'espace aujourd'hui d'une maison, qu'est-ce que c'est, quoi?
Comme vous dites, j'avais la certitude que je n'étais pas dans la norme, puisque toutes ces maisons qu'on a, dont certaines sont protégées, toutes ces maisons ont été refusées au permis de construire.
Ah oui?
Donc, il a fallu que je me batte, que je fasse intervenir de glorieux aînés qui tenaient un petit peu le département à ce moment-là. C'était les architectes conseils du ministère pour que on fasse passer ce refus et qu'on m'accepte.
Oh là là.
Donc, au fond, la bagarre, elle était, dès le début, certifiée non conforme par les fonctionnaires et obtenue au forceps par des amis qui savaient que, au fond, la maison, je la faisais avec les gens, jamais derrière les gens, jamais en leur opposant quoi que ce soit. La maison de Ruche, on a discuté un an. Avant de déposer le permis, avec eux.
Avec les habitants, avec
voilà,
le commanditaire.
Avec les habitants. Donc, je respecte l'habitant comme pilote. Mais, en même temps, pour moi, c'était évident que c'était un laboratoire de recherche pour que je passerais à la grande échelle des immeubles. Et je trouvais, je disais aux architectes, c'est extraordinaire d'avoir la possibilité de faire ses premières armes sur la maison, à condition de traiter la maison comme une invention à faire, une progression à faire et à ne pas reconduire le modèle des autres. Bon. Alors, dans l'époque maintenant, c'est un peu différent.
Ah oui, parce que là, la société
c'est
a beaucoup évolué.
C'est un peu différent. La société, ça fait 40 ans,
oui.
Ça fait 50 ans, certaines maisons. Évidemment, le coup de choc qu'une maison de Ruche faisait, elle le ferait peut-être encore d'ailleurs, celle-là. Mais il y a eu quand même beaucoup de grands architectes qui ont transposé ça dans les bâtiments publics, et c'est différent. Mais quand même, je trouve que ce qui est intéressant, c'est dans ce Grand Prix, la maison, je trouve que c'est les réponses qui ont été faites, et même quand on remettra le prix officiellement devant la presse, le discours que je vais faire pour expliciter, j'ai pris l'habitude d'expliciter pour ceux qui viennent à cette cérémonie, ça a beaucoup surpris la presse, d'expliciter nos choix. D'habitude, c'est dans le secret, on dit celui-là est le premier, deuxième, troisième, point final. Moi non, je dis pourquoi il est premier. Je dis pourquoi un qui avait un très bon dessin a été rejeté. Et ça établit, avec le peu de gens qui viennent, parce que quand même, c'est pas un match de foot, hein. Bon, ça établit un aller-retour auquel la presse a été sensible, et pour la première fois l'an dernier, on a eu des articles.
Oui, et probablement aussi avec les futurs candidats
ben oui,
qui voient là de la transparence ben et qui ont envie de se prêter au jeu du concours.
Voilà. Alors cette année, ça a été très précis, je vous en parlerai si vous voulez. Le choix qu'on a fait et les réponses qui ont été sélectionnées, les deux montrent que ça a été un concours qui apportait quelque chose. Pas seulement une médaille qu'on accroche, pas seulement un honneur, mais quelque chose dans la compréhension de l'architecture du tout venant, puisque c'est une maison individuelle.
Alors, on va peut-être parler d'eux, justement,
oui.
Si vous voulez. On va voir quelles sont leurs propositions pour ces maisons qui ont dû obéir à de nouvelles... Enfin, tenter de trouver de nouvelles compositions et de nouvelles conceptions. Alors, le premier prix d'architecture a été décerné à Simon Moisière. Est-ce que c'est pas lui qui avait déjà été... Honoré l'an dernier, parce que je me suis demandé si c'était le même ou si c'en était un autre.
Second l'an dernier.
Voilà, d'accord.
Et moi, je l'aurais voulu premier.
L'an dernier. Et cette année, son travail vous a à nouveau tous séduit?
Cette année, ça a tous séduit, mais je n'ai pas eu à m'engager comme l'an dernier pour qu'il ait la place de second. Je me suis engagé comme un avocat. Je n'ai pas eu à le faire. Mes confrères l'ont fait tout seul. Et il s'est passé que dans le règlement, si vous tenez à tout savoir, celui qui a le droit de se représenter parce qu'il a été concurrent et récompensé l'an dernier, je crois.
A le droit de recommencer.
Deux ou trois qui ont le droit de recommencer. Voilà. Cette année, il y avait un autre codicille qui disait qu'il pouvait obtenir donc un prix à condition qu'il ait un prix supérieur à celui qu'il avait l'année d'avant.
Ah, bon.
Ça a un peu bouleversé nos choix.
D'accord.
Je dirais, il a vraiment, c'était bien, il était très bien, mais on pouvait encore discuter, tandis qu'à un moment, on n'a pas pu discuter. On ne pouvait pas le mettre deuxième, il fallait qu'il soit premier.
D'accord.
Non, premier. Mais il méritait, il était dans le groupe des trois. Hein.
Donc lui, il a travaillé...
Qu'est-ce qu'il a fait?
Eh bien, il a fait Transhumance. Plus. Il a fait un projet qu'il a intitulé, alors pour répondre à votre sujet maison gardée,
hein,
il a fait un projet qui s'appelle Transhumance, dans lequel, moi ce qui m'a frappé, c'était sa vision aussi du monde, puisque il dit que dans une maison, on y accumule des kilogrammes et des kilooctets, qu'elle est à la fois isolée et qu'elle inclut toutes les données du monde aussi grâce à Internet. Il a introduit notre... cette grande rupture numérique qui modifie toutes nos habitudes, y compris celles de la maison.
C'est vrai que c'était un choix très intéressant. On a eu du mal parce que ça n'était pas toujours évident, ce programme, dans le graphisme, qui était un peu imprécis à certains moments, mais quand même, le programme étant dit d'une façon nette, et puis cette histoire qui l'a un peu aidé d'avoir été déjà deuxième, il a mérité largement son premier prix.
Alors, il y a deux lauréats qui ont utilisé le béton, dont lui, comme matériau de base pour cette maison qu'ils ont inventée.
Oui, je me rappelle très bien le sujet. La transhumance, c'était un argument sociétal et comment on appelle ça maintenant, un petit peu sur le plan, la manière de vivre. Mais ce qui était très intéressant, c'est que je crois qu'il a parlé d'une maison qui était apte à répondre à la famille recomposée. Donc là, on a trouvé ça. C'est pour ça, finalement, qu'on a fait jouer la clause, parce que la forme était un peu brutaliste pour certains, comme vous le verrez, mais on a fait jouer la clause pour lui donner grand prix, parce que s'intéresser tout d'un coup, pour la maison individuelle, à la famille recomposée, c'est-à-dire donner des espaces qui pouvaient être occupés provisoirement par des anciens parents et qui pouvaient même de là rentrer dans la vie de la communauté familiale, mais qui avaient le droit à une indépendance par une sortie personnelle. En fait, il y avait des pièces qui avaient deux portes, une entrée directe sur l'extérieur et une entrée de communication sur la grande salle du séjour, si on peut dire. Donc là, il y avait une prise de la société extrêmement précise sur son développement et qui nous a semblé vraiment mériter l'histoire. On a bien fait. C'est un très bien projet.
Alors, juste, je cite ce qu'il a présenté dans son texte. Cette maison ne cherche pas à se cacher derrière un enduit lisse, à s'étoffer de matériaux inoxydables, à l'image du propriétaire et à une condition sociale. Au contraire, revêtue d'un manteau poreux en béton, elle va petit à petit accepter le lichen et entretenir une relation au temps. Elle prône un certain archaïsme pour mieux développer la transhumance intellectuelle et physique de l'occupant.
Non, c'est
un joli
bien.
Projet.
C'est très bien.
Un beau défi.
Et puis, ce n'est pas qu'un simple jeu de mots ou d'écriture,
oui.
Puisque je vous ai donné notamment cette histoire de la famille recomposée, très important.
Le deuxième prix a été décerné à Raphaël Masson, qui lui a conçu une maison qu'il appelle une maison pluri-trait d'union individuelle. Et lui, il a beaucoup travaillé, lui aussi, sur les liens entre les individus qui vont peupler cette maison, enfin qui vont habiter la maison, plus que sur l'espace.
Celui-là a travaillé la même chose qu'on a développée
avec
dans
Simon
cette
Moisière,
maison, mais avec des moyens tout à fait différents et tout à fait lambda, c'est-à-dire des volumes. C'est celui-là qui exprime le mieux cet accrochage de la vie à un bâtiment qui vient se ficher dans le corps central et qui, à un certain moment, peut être vide, peut suivre l'organisation ou la désorganisation familiale, etc. C'est celui-là qui a été en compétition avec l'autre et on n'y arrivait pas
à les départager
si cette chose-là n'avait pas joué. C'était obligatoire. Et je suis content qu'on ait fait ces choix. Alors lui, notamment, sa forme le desservait plutôt par rapport à la forme
de Simon
architecturale de l'autre.
Raphaël
Parce qu'elle
Masson
était
présente.
Comme les maisons que je faisais, moi. Elle était un petit château fort.
Oui, il y a peu d'ouverture quand on la voit comme
fort.
Ça. Hein,
Et quand on la voit comme ça, l'image du château fort, protecteur de la famille, protecteur de ceci, avec cette possibilité de relation avec l'ancien membre de la famille. Etc. C'était très intéressant. Et je vous dirais que ça nous a beaucoup émus de trouver ces gens-là aussi intéressants, aussi déterminés à coller à la vie et à coller à la vieille tradition de la maison protecteur familiale, protecteur de famille, parce que les autres, tous les autres qu'on a éliminés, à part la chinoise dont on parlera, tous les autres ont plutôt travaillé les maisons en agglomération. Ce n'était pas le sujet. Entre les deux informations que j'ai pu donner à tout le monde par l'intermédiaire de la dame qui s'occupait du concours, c'était de dire on vous demande une maison individuelle. On vous demande pas des maisons en bande, en randonnion, comme on fait au Mexique, sur 1 kilomètre de long. Et j'ai raison, parce que les Mexicains qui ont pas de maison refusent d'y habiter. Ils refusent, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est pas cher, mais ils refusent d'y aller. C'est quand même une grande leçon.
Alors, on va laisser le beau projet donc de Raphaël Masson, qui a conçu une maison donc pour abriter au moins 3 familles à l'intérieur. Et on va passer au troisième prix, qui a été décerné à Nicolas Martin, qui lui, alors, a fait une coquetterie, puisqu'il a intitulé son projet « Garder la maison », en réponse à votre intitulé de concours qui était « Maison gardée ».
Maison gardée, c'était notre correspondant critique d'architecte qui a trouvé ce très joli nom.
Miguel ou Chalin ?
Chalin.
François Chalin, c'est François Chalin qui est donc, vous nous dévoilez,
le père
de Maison gardée.
Et on a voulu le garder comme titre. Et quand il y a eu la discussion autour, on fait une maison, on ne fait pas des maisons, ou c'est la ville. Ce titre nous a servi d'ancrage, parce que maison gardée, ça dit bien ce que ça veut dire.
Alors, ce troisième candidat a fondé sa conception sur la façon dont les occupants s'approprient l'espace et occupent...
C'est le grand cube.
Voilà, c'est le grand cube, avec un espace qui permet, je vais le citer, vous allez nous expliciter votre choix, « L'espace ainsi défini permet un projet sans autre motivation que la continuité du jeu et de la production. Garder la maison, c'est garder intacte la possibilité du jeu autonome dans et par l'espace, sans toutefois présumer que l'individu socialisé s'y décide. »
Celui-là, il a été à deux doigts de gagner tout.
Ah.
Voilà. c'était celui qui nous a impressionné le plus, qui était en plus d'un rendu exceptionnel, qui maîtrise son dessin, qui maîtrise l'espace, et en plus il avait quelque chose qui incite toujours au bonheur les architectes, il avait choisi un terrain, un vrai terrain, sur les rives d'une très belle rivière, je ne sais pas si c'est en Savoie ou en Suisse, je ne sais pas. Et puis, il avait choisi de bâtir là-dessus ce qu'on appelle une enveloppe.
Alors, qu'est-ce qu'il a choisi, Nicolas Simon ?
Il a choisi un cube et un cube ouvert. C'est-à-dire qu'un cube qui avait trois côtés fermés, avec une toiture qui était déjà travaillée de façon à pouvoir en modifier le plan horizontal. Et puis, devant, il n'avait pas mis de vitrage, devant ce cube. Et derrière, peut-être un maillage ou quelque chose comme ça, quelque chose qu'on voyait à peine. En fait, il l'avait situé, et on voyait les photos du site partout, donc il avait situé cette espèce de carcasse d'une pureté incroyable, un cube à cheval sur une plateforme, et puis rien d'autre. Rien. Pas le moindre petit objet, pas le moindre mur, pas le moindre cloison, pas l'endroit où il y avait les WC, pas l'endroit où il y avait la salle de bain. Il laissait ça à la libre disposition et libre imagination du futur occupant. C'était extraordinaire. On voulait tous le nommer premier, mais on a dit si on le met premier, il ne joue pas sur le même territoire que les autres. Il n'accepte pas les mêmes règles. Il va y avoir des recours. Il va y avoir des gens déçus en disant oh ben, prendre ça pour un gag. Donc on l'a mis à part. Je crois que lui a demandé tu connais la grande machine spéciale du jury, non ?
Je crois que
on
c'est...
lui a pas donné c'est... mention spéciale du jury. Il nous a profondément
emballé en tout
emballé,
cas.
Et il nous a justement permis d'aller encore plus loin dans le risque. Et c'est ce qui constituera le prochain concours.
Bon, alors
je
ne
vous dis pas encore, parce qu'il n'a
pas
l'adhésion encore de la section au grand complet, comme il y en a toujours un qui est en Chine, ou je ne sais pas, on va attendre. Mais ça, on a voulu le distinguer, c'est comme si on donnait deux prix d'excellence, pour un deuxième prix, et puis là, tout d'un coup, un prix à part pour la qualité essentielle de la pensée, et de, au fond, ce qu'on pourrait faire,
ça
ce qu'on pourrait réaliser.
Alors, avant de nous séparer, puisque le temps file à toute allure, vous avez aussi donné deux mentions à deux personnes. Julie Litouvong pour un projet qui s'appelle Maison périphérique. Et puis une autre maison, Le ciel dans l'œuf, c'est le projet de Mintan Ngao. Deux projets qui sont très différents, que vous avez aussi voulu honorer. Alors, on va commencer par la maison périphérique de Julie Litouvong, qui a une mention.
Elle, c'est très curieux. Elle a fait la maison comme si elle avait un client qu'elle imaginait, et elle a imaginé le dialogue avec ce client, et elle l'a fait dans ses moindres détails.
De cette relation dont vous parliez tout à l'heure, d'ailleurs.
Cette relation qu'on a...
Très proche avec celui qui habitera la maison.
Avec Druche, etc. Donc, si ce client, au lieu d'être virtuel,
était réel,
par une précipitation de la science-fiction devenait réel, il pourrait s'installer là-dedans d'une façon extraordinaire parce qu'elle a eu réponse à tout et avec une très grande sensibilité. Donc on a une forme qui dépend beaucoup de l'usage, qui correspond à cette vieille image de la maison dont la coquille doit correspondre à ce qui se fait à l'intérieur. C'est quelque chose qui a beaucoup hanté les esprits des architectes à beaucoup d'époques. Et là, c'est merveilleux. Quand vous regardez la délicatesse du dessin, l'emboîtement de formes irrégulières qui n'ont rien du cube, rien du rectangle, mais toutes épanelées comme ça, c'est vraiment un très beau travail. Il faudrait lui chercher un client maintenant.
Pour la réaliser.
Parce que lui, on l'aurait pas pigeonné. Il aurait tout fait. Il aurait tout compris. Il pourrait lui dire, bon, banco, vous me faites la maison. Donc, c'est pour ça que, pour ce travail considérable, que peu de gens ont fait, hein, parce que je vous parlerai après de ceux qui n'ont pas bien fait.
En tout cas, les projets des finalistes sont tous exposés hein, le 13 décembre, oui. Pour 3 semaines, au pavillon Comtesse de Caen, sur le parvis de l'Institut de France. Et puis, dernier projet, un projet très différent, très beau. Cette fois, c'est une maison organique. Le projet, c'est Ciel dans l'œuf, et c'est fait par Mintan Ngao.
Eh oui, oui. Là aussi, nous sommes dans l'Orient. Là. Moi, je l'aimais beaucoup, ce projet.
Alors, l'œuf
l'aimais beaucoup, l'œuf. L'œuf brisé, cassé, retravaillé. Ça marche très bien. Je ferai un œuf, je le casserai, et après, je recompose les morceaux avec ça. Avec les morceaux, je recompose. Je fais une maison. Ça, il y avait quelque chose de très intéressant. Et il y a eu des réticences dans le jury, c'est pour ça que elle a été que
elle a une mentionnée.
Parce que il y a eu une réticence. La réticence était très personnalisée. Il y avait des gars qui, on n'est pas nombreux, mais enfin chacun s'exprime.
C'est une douzaine à peu près.
Et chacun a un style, c'est une façon de faire. Et il y en avait beaucoup qui ont été gênés par ce truc extrêmement concassé, je peux dire, très brisé, recomposé avec une grande adresse. Mais il y a eu un choc négatif pour certains. Voilà. Donc on ne pouvait pas lui donner un grand prix. Moi, je trouvais que c'était un très bon projet. Mais je ne suis pas le patron.
Vous êtes plusieurs.
Je ne suis pas le patron. Tous ces jurys que j'ai présidé, les prix ont été donnés à l'unanimité, sans repentir. Là, ça a été très difficile à cause de celui-là, là, à cause du cube qui nous laissait se démerder à l'intérieur. Mais ça a été très difficile d'avoir l'unanimité parce que, quand même, c'était extravagant, si on peut dire. C'était ne pas traiter le sujet tout en disant toute l'espérance que pouvaient avoir les autres de le traiter. Mais quand vous mettez même pas un mur de verre pour vous protéger de la pluie, c'est donc... Il y avait un bon projet comme ça, dans le discours, parce que on a introduit un peu la philosophie, pour la première fois. C'est pas moi qui l'ai demandé.
Qui l'a demandé?
C'est l'air du temps.
Ah, d'accord.
C'est les nouvelles, les gens comme ça qui font toujours...
Qui ont besoin d'ancrer ça dans leur...
Oui, ils ont un besoin dans leur discours,
dans
les architectes, les plus grands architectes du temps. Actuellement, je dis nouvelles parce que je sais qu'il fait référence à un philosophe assez souvent, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est toute une génération. Ce n'est pas la mienne. C'est la génération après la mienne, référence aux philosophes. Moi, je ne les lis pas. Je ne risque pas d'avoir des références aux philosophes. Donc, je pense à un très bon projet qui était... Le discours du jeune homme était très bien. Je ne sais pas ce qu'il avait fait. J'ai encore les images. Mais il a été trahi, je lui dirais d'ailleurs au jury, il a été trahi par l'ordinateur. Le discours était formidable. On s'attendait à des dessins formidables, mais l'ordinateur, qui était très perfectionné, c'était pas parce qu'il ne connaissait pas. Il avait un bel outil de travail. Eh bien, a pris le pas et a cassé l'idée philosophique. Ça ne correspondait pas. Il y avait, selon le mot d'Izou que j'emploie toujours quand je ne sais pas quoi dire d'autre, discrépance entre le rendu
et l'idée,
l'ordinateur. Il n'aurait jamais dû prendre l'ordinateur. Jamais. C'est l'ordinateur qui a tué l'idée. Et j'en suis très content. Parce que ça leur fera comprendre que l'ordinateur est un machin merveilleux aux jeunes architectes, mais qui n'est pas suffisant. Et qu'il faut apprendre à le dompter, à le diriger. Il ne faut surtout pas le laisser diriger votre étude. Il est capable, l'ordinateur, tout fait. Il papillonne, il vous fait ça, il vous fait des trucs, des effets merveilleux de transparence qui n'existent pas si vous le laissez faire, et ça fait de très jolis dessins. Et ben lui, ça a été le contraire. Son magnifique discours a été comment neutraliser, banaliser par les rendus par ordinateur. On ne comprenait plus, on disait, mais lui, il parle une merveille, et il fait un truc d'ordinateur tout à fait commun.
Vous voulez dire que le dessin ou l'esquisse aurait été plus judicieux ? ou bien c'est une obligation à un moment dans le concours de passer aussi par la transposition par l'ordinateur.
Il l'aurait fait à la main, je suis sûr qu'il s'en serait sorti. Parce que dans le crayon, il sent, il ressent les soubresauts mentaux et les mystères. L'ordinateur ne le sent pas, il faut lui faire sentir. C'est beaucoup plus difficile.
On connaît vos magnifiques dessins, très très beaux dessins, qu'on a pu voir l'été dernier exposés d'ailleurs.
Ah oui, hein, chez Yvon Lambert.
Chez Yvon Lambert. Claude Parent, juste pour conclure, vous n'habitez pas la maison que vous avez, les maisons que vous avez conçues.
Non, j'avais plus assez d'argent.
Vous n'aviez plus assez d'argent.
L'architecture m'a fait un temps croire que j'arrivais à un niveau d'argent un petit peu intéressant, où j'allais plus faire des choses. Et finalement, à la fin de ma vie, elle m'a coûté tellement d'argent et me couvert de telles dettes que j'ai été obligé de l'arrêter et de vendre mes biens pour ne pas faire faillite. Parce que dans ma famille, on ne fait pas faillite. On n'a jamais fait faillite. C'est une tradition familiale. Je sais que maintenant, dans les affaires, on peut faire 4-5 faillites à la suite l'une de l'autre.
Et que
ça ne gêne personne. Moi, je suis de la vieille garde de ce côté-là. On ne fait pas faillite, on paye ses dettes. Et après, on ne peut pas remonter une agence. Mais on se réfugie, comme je le dirais dans le colloque, là, qui doit avoir lieu à l'Académie, on se réfugie dans la recherche. Parce que la recherche, ça coûte rien. C'est un crayon et une feuille de papier.
Et puis, je voudrais juste recueillir votre avis sur ce qui a le plus influencé les candidats cette année. Et est-ce que, par exemple, la réalisation de Nishizawa, vous savez, dans un faubourg de Tokyo, avec ses maisons complètement éclatées, enfin, c'est une maison avec des petits modules, et à chaque boîte autonome correspond un usage, j'allais dire, d'autrefois, soit la salle de bain, soit la cuisine, etc. Est-ce que vous avez senti, dans les projets que vous avez eus sous les yeux, des influences comme ça qui émergeaient ou pas?
Non.
Non.
Ou ça nous a échappé, ou on n'a pas senti. On a été très déçus du fait qu'ils ne sachent pas ce que c'était qu'une maison individuelle. Ils n'en voient pas, au contraire, la justification, le prolongement. Et ils ne la concevaient que groupée, regroupée à touche-touche, regroupée en petits villages, regroupée en des formes qui pouvaient être serpentines, qui pouvaient être assez agréables. Mais ils ne les considéraient que groupées. La même sécheresse d'esprit que celle que j'ai rencontrée dans le truc d'avant, logement étudiant, où le logement,
ça, c'était
un
le thème
rectangle.
De l'an dernier.
Ouais.
C'était un rectangle.
Alors,
pour
je
la
trouve,
plupart, parce que c'est
alors,
pas
les... Alors, je vais accuser les écoles. Parce que comment ça se fait que des gens si jeunes soient asséchés ou desséchés à ce point-là de ne pas avoir le moindre rêve qui rentre dans la conception d'une maison?
Alors, vous donnez rendez-vous aux étudiants l'an prochain. Je crois que le concours est de plus en plus relayé auprès des grandes écoles d'architecture et vous vous en félicitez. Et c'est ouvert à aussi, bien entendu, aux diplômés jusqu'à l'âge de 35 ans. Merci beaucoup, Claude Parent, d'être venu à nouveau présenter ce Grand Prix d'architecture, cette fois pour l'année 2012. Et on donne rendez-vous aux internautes pour le 13 décembre à l'Institut. Merci.
Merci beaucoup.
Signalons que l'Académie des Beaux-Arts exposera du 13 décembre 2012 au 6 janvier 2013 les projets des 17 finalistes du Grand Prix d'architecture de l'année 2012. C'est pavillon Comtesse de Caen, l'entrée est libre et gratuite sur le parvis de l'Institut face au Pont des Arts. L'œuvre architecturale de Victor Baltard est redécouverte en ce moment. L'architecte est né en 1805 et est mort en 1874. Le musée d'Orsay lui consacre une exposition, Victor Baltard, le fer et le pinceau, ouverte jusqu'au 13 janvier 2013. Cette première rétrospective rend hommage à celui qui fut désigné par le préfet Haussmann, directeur du service d'architecture de la ville de Paris. un poste qui fit de lui l'un des plus célèbres et influents architectes du Second Empire. On lui doit de très nombreux bâtiments, tels que l'hôtel du timbre, les halles centrales, l'église Saint-Augustin, les abattoirs et le marché de la Villette, ainsi que les pompes funèbres, aujourd'hui les bâtiments du 104. À l'image du Paris du Second Empire, ville à la fois moderne et classique, Baltard fut avant tout préoccupé de concilier tradition et innovation, art et industrie, lui qui aimait tout particulièrement la peinture et le dessin. Son nom reste principalement attaché aux Halles de Paris, lieu de mémoire par excellence, dont la littérature s'est emparée dès le XIXe siècle et le cinéma plus tard. Leur démolition en 1971 a profondément marqué les Parisiens. L'exposition illustre la diversité des travaux de l'architecte et son penchant pour le dessin et la peinture qui lui valent aujourd'hui d'être considéré à la fois comme artiste et constructeur. Il imagina aussi, ce qu'on sait moins, les décors éphémères de nombreuses fêtes municipales dont on peut voir les dessins dans l'exposition. L'auteur principal de la transformation de la capitale sous le Second Empire fut couvert d'honneur. Il entra à l'Académie des Beaux-Arts et on peut voir, au tout début de l'exposition, son épée d'académicien. Quelques brèves concernant l'actualité des académiciens. Concernant les photographes. Yann Arthus-Bertrand invite le public avec la Fondation Good Planet à un voyage inédit au cœur des océans. Il sera présent lors de deux projections gratuites de son dernier film Planète Océan, co-réalisé avec Michael Pitiot, avec le soutien d'Omega et produit par Hope. C'est les 15 et 16 décembre au musée du Quai Branly et à la Géode. Les inscriptions sont indispensables et sur Internet. Une conférence est également proposée par les équipes de la Fondation Good Planet le samedi 15 décembre au musée du Quai Branly avec des experts internationaux du monde marin. Pour toutes les inscriptions, le programme et les réservations, consultez le site de Good Planet sur Internet. Jusqu'au 5 janvier 2013, vous pouvez voir à l'espace Soardi à Nice l'exposition du photographe Lucien Clergue qui s'intitule « Lucien Clergue, langage du corps ». Vous y verrez des photographies en noir et blanc, essentiellement des photographies du corps féminin nu, un travail qui occupe une grande part dans son œuvre. Le mercredi 12 décembre, France 3 présentera un nouveau numéro de l'émission Le Grand Tour de Patrick de Carolis. Patrick de Carolis vous emmènera pour ce troisième épisode à Istanbul, à Vienne et à Buenos Aires. Un voyage culturel à ne pas manquer. Enfin, dans l'actualité des arts, je propose aux amateurs de gravures anciennes d'aller voir l'exposition présentée à l'École des Beaux-Arts à Paris, intitulée Albrecht Dürer et son temps, de la réforme à la guerre de 30 ans. Il s'agit d'une centaine de dessins tirés des trésors de la collection des Beaux-Arts de Paris, qui montrent des gravures exceptionnelles, des dessins allemands qui étaient assez peu collectionnés en France. On savait peu de choses sur ces dessins. Et ici, une centaine de dessins, de gravures offrent un panorama inédit et passionnant sur la création artistique des grands centres allemands de la réforme à la guerre de 30 ans. Parmi les artistes les plus célèbres, vous pourrez voir des œuvres majeures de Holbein l'Ancien ou bien de Dürer. On découvre ainsi, et surtout, la diversité des approches techniques de cette époque. Ajoutons que cette exposition est accompagnée d'une publication et d'un catalogue d'une somme de 500 pages avec plus de 1000 illustrations et qui fait le point scientifique sur ses collections. L'exposition sera présentée ultérieurement à Stuttgart en 2013 et également à Sacramento en 2014. sur le Pont des Arts vous donne rendez-vous en janvier.